Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Serious Game Outil qui s'écrit UWTI. Ce jeu de logique est utilisé pour fédérer, recruter et innover. Il se compose de petites briques lumineuses que l'on assemble. Pour réussir le défi, il suffit que toutes les briques aient la même couleur. Les règles sont simples, les énigmes peuvent être complexes et les enseignements sont nombreux. Je vous propose de découvrir Outil avec les deux créateurs du jeu. Bonjour Arnaud Brachet.
Bonjour.
Et bonjour Arnaud Leca.
Bonjour Mathieu.
Alors on va faire un petit tour de présentation. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours? Qui a envie de commencer?
Vas-y Arnaud.
Allez, je vais commencer. Donc Arnaud Brachet, ingénieur de formation. Je suis diplômé de l'école des mines de Nancy. C'est d'ailleurs... sur les bancs de l'école que j'ai rencontré Arnaud il y a maintenant pratiquement plus de 10 ans. On a été diplômé en 2007. Ensuite, après l'école, j'ai travaillé dans une société de conseil, donc chez Capgemini Consulting, pendant pratiquement 10 ans, en fait, dans laquelle j'ai bossé pas mal sur des problématiques de transformation d'organisation, de conduite du changement, de gouvernance de grands projets en fait, d'infrastructures informatiques. Et j'ai décidé en fait de quitter le conseil pour me lancer dans l'aventure outil avec Arnaud, donc en 2017.
Et ben, point de départ, École des Mines avec Arnaud Brachet. Pour moi aussi, Arnaud Leca, donc diplômé la même année, ami de promotion. Et puis pendant qu'Arnaud faisait du conseil, moi j'ai repiqué pour des études de design. Dans une école qui s'appelle Strat École de Design. Donc c'était à la suite des études d'ingénieur. Et puis j'ai créé une agence de design et pratiqué le design pendant 10 ans, 10-11 ans maintenant, avec tout ce qui va être innovation, transformation des organisations par le design, design thinking, et création aussi d'objets et d'outils innovants. Et on s'est retrouvés il y a quelques années pour ce projet outil, tous les deux, Arnaud et Arnaud.
Ça marche. Alors, dans Homo Ludens, on parle de jeu. Est-ce que vous êtes un peu joueur?
Moi, de manière générale, j'aime bien les jeux pour lesquels il faut se creuser un peu la cervelle. Hein. Donc, du coup, ça prend son sens avec Outil, puisque ça reste quand même un casse-tête. Alors, j'étais un grand joueur de consoles et de PC dans ma prime jeunesse. Des jeux tels StarCraft, Age of Empires, des jeux de stratégie. Et bon, maintenant, j'ai plus trop le temps parce que ça demande quand même un certain investissement. Donc je joue encore de temps en temps à des jeux plutôt de escape game, point and click sur le smartphone, mais maintenant ça s'arrête là. Et notre jeu maintenant principal, ça reste quand même Outil maintenant.
Moi, je suis un peu moins jeu. Enfin, par exemple, petit, on me proposait des jeux de société, c'était pas trop ma tasse de thé. À la limite, là, je me remets aux échecs en ce moment. J'apprécie énormément les échecs, ça me permet de sortir un peu de l'écran d'ailleurs. Et moi j'aimais bien plutôt essayer d'inventer mes petits jeux, que ça soit par le dessin, résoudre des problèmes par le dessin, c'était plutôt ça mon jeu. Et donc comme dit Arnaud, l'aventure outil est un de nos jeux principaux, et de me créer mon propre jeu, c'est un peu ce qu'on a fait avec Outil, c'est se créer notre jeu, notre casse-tête, notre jeu.
Ça marche. Alors comment est-ce que vous est venue cette idée de créer Outil ensemble en 2017, c'est ça?
Alors, ouais, la structure a été créée en 2017. On en parlait déjà avant, je pense peut-être en 2015. En fait, dans nos expériences propres, en fait, on a eu l'occasion d'animer beaucoup d'ateliers collaboratifs avec nos clients. Donc, Arnaud plutôt sur des parties design thinking, innovation. Moi, plutôt sur des parties organisationnelles, transformation. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir toujours les mêmes ficelles, en fait, et les mêmes outils utilisés dans ce type d'atelier, c'est-à-dire le fameux post-it, des exercices de cohésion à base de Lego, de marshmallow, il faut construire une grande tour, etc. Donc ça reste des jeux, effectivement, qui sont des outils qui restent efficaces, mais bon, ça manquait un peu de nouveauté, selon nous. On avait envie d'un peu de moderniser tout ça. Et puis, pourquoi un jeu? Parce que... On est convaincu qu'avec Arnaud, c'est un médium en fait très puissant en fait pour faire passer des messages dans le milieu de l'entreprise. C'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. En plus, le jeu, parce que on voit de plus en plus. D'ailleurs, le phénomène de Serious Game a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Et puis voilà, et puis moderniser tout ça en apportant un peu de magie et un peu de numérique en fait à ce type d'exercice, un peu d'interactivité, un petit côté un peu lumineux, tout en évitant bien sûr de rentrer dans le piège de l'écran. On voulait pas que les gens se retrouvent tous derrière un écran, immergés dans un jeu vidéo type serious game d'entreprise, mais on voulait que les gens se retrouvent autour d'une table et partagent en fait une expérience ensemble.
Ouais.
Rien à rajouter, Arnaud.
c'est vraiment ça. Après, dans le jeu, on a mis pas mal de choses, mais je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. Alors, il faut savoir que quand on dit avec Arnaud, c'est pas qu'on est schizophrène l'un et l'autre. Hein. On est tous les deux des Arnaud, donc on se renvoie la balle. C'est notre jeu à nous. Mais oui, complètement. On voulait renouveler et puis avoir une approche plus engageante du jeu. On va en reparler, l'aspect numérique. Pour nous, c'est un moyen d'engager. C'est créer de la magie, mais c'est aussi engager les gens avec une expérience nouvelle, interactive, mais hors de l'écran. Arnaud l'a dit, c'est important pour nous. On est autour de la table, un peu de manière ancienne. On se réunit autour de la table, mais nouvelle, parce qu'avec un outil numérique qui échange des informations, qui prend des comportements lumineux.
Et est-ce que votre idée a évolué au fur et à mesure ça fait maintenant quoi, 5-6 ans que vous avez développé ce produit. Comment est-ce que ça a évolué et quelle était l'idée à la base en fait?
Le projet a beaucoup évolué. En réalité, il s'est transformé parce qu'on avait une idée maîtresse, mais les façons de l'appliquer pouvaient prendre différentes tournures. L'idée principale, ce qui nous tenait à cœur, c'était de rendre accessible, de manière ludique, quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation d'objets, de la vue en réseau. Quand on voit les choses en réseau, quand on voit comment des éléments interagissent, on trouve ça assez passionnant, assez fascinant. On pense que c'est pertinent aujourd'hui, dans un monde très connecté où il y a des enjeux systémiques, pour dire un gros mot, mais voilà, de relations des individus, des outils informatiques comme physiques, des relations climatiques même entre les choses. Cette vue en réseau nous intéresse. Et on voulait amener ça, parce qu'on est ingénieur aussi, hein, on voulait amener ça, mais de manière pédagogique, ludique, et qu'on puisse le faire avec les mains, que chacun puisse manipuler des objets qui interagissent avec les mains. Donc assez naturellement, on est venu vers cette idée de briques interactives qui auraient des comportements en fonction de leurs associations. Mais finalement, on a imaginé plein de choses. Ça aurait pu être... ça aurait pu prendre plein de formes, et c'est à force d'essayer qu'on a trouvé la bonne forme, simple, efficace, pour véhiculer cette idée de manipuler des objets, que ce soit des idées aussi, manipuler des idées, cette idée de lien, d'interaction. Une idée qui était floue au départ, hein, qui était puissante, mais floue, et voilà, il a fallu la travailler pour la mettre en forme.
Ouais, c'est dans tout process d'un objet nouveau. En fait, au début, on avait plein d'idées. En fait, on voulait un peu tout faire avec cet objet. On avait imaginé même plein de jeux différents qu'on pouvait activer en fait en fonction des différents objectifs à poursuivre dans le cadre des ateliers. Et en fait, au fur et à mesure des démonstrations, des ateliers qu'on a pu nous-mêmes animer, en fait, on a vraiment simplifié au maximum en fait le jeu en tant que tel et les interactions entre les briques pour que d'une part, enfin, que ça reste simple en fait pour les personnes qui l'utilisent, aussi bien pour les participants que pour les facilitateurs, hein, parce que eux aussi en fait il faut que l'outil soit, on les sort de la mallette, c'est directement, on les allume et hop c'est parti, qu'il n'y ait pas de manipulation, on va dire de configuration très compliquée à la sortie de boîte, et puis donc vraiment affiner en fait les scénarios de jeu pour laisser place vraiment au maximum à la magie. Et pour ne laisser place aussi qu'aux enseignements qu'on souhaite en fait transmettre aux participants.
Bah, on peut même dire qu'avant de se figer sur un jeu, bon ça on en parle moins parce que c'était un peu fumeux dans nos têtes, mais on voulait même, cette idée de l'interaction, on voulait faire un objet pour presque faire de la robotique, quoi. Avant que ça devienne un jeu de table, presque, c'était presque un outil, une pièce de robotique pour que dans les organisations, on puisse modéliser des flux. Bon, c'était génial, mais un peu compliqué, un peu inaccessible C'était génial dans nos têtes, mais dans la réalisation, complexe, trop compliqué. Et ça, c'est une belle aventure qu'on vit, c'est qu'en matérialisant, en devant produire un objet industriellement, en ayant un public aussi à convaincre, bah, on se rend compte de la différence entre nos idées et la réalisation, et on fait des allers-retours entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on peut mettre en œuvre, qui est simple à comprendre. Donc c'est une aventure de plusieurs années en étapes. Et c'est une aventure d'innovation, en fait. On retrouve ça dans tous les projets d'innovation.
Mmh. Et vous avez parlé un peu de l'aspect numérique et du fait que ça engage un peu plus les joueurs, les participants. Et est-ce que ça rend aussi le jeu un peu plus sérieux? Je me posais cette question, parce que souvent, quand on propose un jeu en entreprise, on a toujours un peu cette barrière à passer, comme quoi le jeu n'est pas assez sérieux pour être proposé dans ce cadre-là. Est-ce que l'aspect numérique aide?
Ben, moi, je dirais, en fait, c'est pas tant le numérique qui le rend plus sérieux, mais par contre, le fait que notre jeu soit hors cadre, c'est-à-dire qu'on raconte pas une histoire ou un monde spécifique. On est face à une énigme qui est incarnée par des briques. Et le fait qu'il n'y ait pas une histoire, une fable à proprement parler, rend la chose plus sérieuse au sens où elle peut être plus facilement transposée au monde de l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un conte, vous êtes dans une énigme qui est un peu universelle et qui est ensuite transposable. Donc, je ne sais pas si c'est le côté numérique, mais c'est plutôt le côté magique, mais sans être illustré. Il n'y a pas l'histoire d'un personnage, vous voyez là il y a une baguette magique et ça, imaginez que c'est votre ordinateur au boulot. Non, c'est pas les transpositions, c'est plus des transpositions de schémas, de comportements. Donc peut-être qu'en ça, ça le rend un peu plus sérieux.
Oui, il n'y a pas tout ce cadre environnement un peu fantastique qu'on peut retrouver dans le jeu, et du coup le lien avec le monde de l'entreprise se fait plus facilement.
Exactement.
Quoi.
Là, c'est un jeu parce que c'est une énigme, mais il n'y a pas ce cadre sans cet environnement. Ouais.
Ça évite les biais, en fait. Ça évite de retomber dans des crispations potentielles que le groupe peut avoir. C'est vraiment, on est vraiment, comme disait Arnaud, hors cadre. C'est-à-dire qu'on part dans le monde des briques, en fait, qui sont effectivement universelles et qui n'ont pas de biais. Après, moi, j'ajoutais que le côté numérique ne rend pas effectivement plus sérieux. Moi, je suis assez d'accord avec Arnaud. Par contre, ça crée vraiment un effet waouh. En fait, quand on fait des ateliers, il y a quand même toute une mise en scène au début de l'atelier, quand les participants arrivent avec toutes les briques qui sont disposées sur la table, qui respirent, en fait. C'est-à-dire que leur lumière varie, en fait, dans des couleurs aléatoires. Et donc, ça fait vraiment un effet bluffant, en fait, pour les participants. Et puis... Et puis nouveau, hein, surtout. Enfin, c'est-à-dire qu'on retombe pas sur des post-it, on retombe pas sur les outils qu'ils connaissent déjà. C'est nouveau. Ils font waouh, donc c'est super. Donc c'est un côté vraiment engageant. Ils ont envie de, comme la consigne est simple, ils ont envie d'essayer, ils ont envie d'y aller. Et c'est ça qui est vraiment, c'est ça vraiment à mon sens que le numérique apporte, quoi. C'est vraiment ce côté un peu waouh. On est obligé d'aller découvrir, en fait, comme on ne connaît pas les règles, les briques se ressemblent toutes, les interactions, y a de l'émergence, on ne sait pas trop ce qui se passe au début, donc on est obligé d'y aller, en fait. Donc c'est vraiment cet axe-là, en fait, qui est puissant dans l'outil.
Ouais, les gens ont envie de réussir, parce que c'est un peu magique, c'est interagir, ils ont envie de réussir. Donc après, ils écouteront les enseignements, ils suivront la scénographie qu'on leur propose. Donc c'est engageant, je crois que c'est vraiment engageant, plus que...
Alors, dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser outils? Est-ce que vous avez défini différents contextes dans lesquels cet outil peut être utilisé?
On a résumé, je dirais, il y a trois moments principaux où outil a une grande valeur. Le premier, ça serait, par exemple, pour apprendre à résoudre des problèmes nouveaux. Tout simplement, le défi outil, avec la scénographie, les mises en scène, les étapes, on va expérimenter une méthode qui permet de résoudre des problèmes nouveaux. Et les participants vont d'abord l'expérimenter et vont ensuite mettre en mots le processus, la méthode. Donc c'est assez intéressant, puissant, parce qu'on a les mains dans la mécanique pour résoudre le problème. Ça, c'est un cas. Y a un cas que tu aimes bien, Arnaud, aussi, sur les équipes projets.
Ouais, on l'a utilisé pas mal dans ce cadre-là, c'est tout ce qui est cohésion d'équipe, en fait, ce qu'on appelle team building plus communément. C'est comment créer en fait un sentiment de cohésion au sein d'une équipe, donc au travers du jeu. Donc ça peut être très utile quand on monte une équipe projet, par exemple, quand on veut faciliter l'arrivée de nouveaux arrivants dans l'entreprise. C'est créer un peu une expérience, donc c'est avant tout ludique, un peu challengeant parce qu'il y a le côté énigme. Alors quand on le fait dans ce cadre-là, on met des notions de timing, des notions un peu de compétition pour faire monter un peu la sauce, on va dire, dans l'atelier. Et c'est assez puissant parce qu'à la fin de l'exercice, en fait, il y a quand même les participants sont très heureux d'avoir réussi. Ils l'ont réussi ensemble parce que c'est une des conditions premières, c'est que tous les participants contribuent à la résolution de l'énigme finale. Et donc ça crée vraiment un beau moment qui rapproche un peu les gens, quoi. Surtout qu'ils se connaissent pas, quoi. Et d'autant plus que comme outil, le gros avantage c'est que c'est un peu universel, c'est-à-dire que c'est des couleurs, des lumières. Y a pas de barrière de la langue en fait finalement. Du coup, c'est aussi très bien pour des cas un peu multiculturels, multinationalité dans les grandes entreprises, quoi.
Et il y a quelque chose qu'on est en train d'expérimenter, dont on avait l'intuition depuis longtemps et qui commence à être mise en œuvre par les gens qu'on a formés à l'usage d'outils, c'est pour le recrutement. Alors nous, on l'a vécu, non pas qu'on recrutait, mais on a fait beaucoup, beaucoup de tests avec des gens de tout âge, et c'est passionnant de voir comment les gens vont résoudre les énigmes. Et en fait, on va pouvoir voir comment les gens fonctionnent, comment ils se comportent face à une situation nouvelle, et ça révèle plein de traits de comportement, de façons de raisonner. Et donc c'est un outil pour le recrutement individuel ou collectif. Vous pouvez mettre une personne face au défi et dialoguer avec elle et voir comment elle chemine, comment elle verbalise, comment elle réfléchit. Et on peut évidemment mettre un collectif face à l'énigme et voir comment ils se comportent les uns les autres, les différentes postures, leadership, communicant, liant. Donc voilà, il y a vraiment trois principaux domaines où c'est ultra pertinent.
Et ouais, ce qu'on n'a peut-être pas dit au début, c'est que nous, notre offre, en fait, c'est vraiment à destination des professionnels de l'accompagnement. Hein. C'est-à-dire, l'outil s'adresse à tous les facilitateurs, coachs, formateurs qui pourraient eux-mêmes l'utiliser dans le cadre de leur activité et notamment justement sur ces trois axes qu'on vient d'évoquer.
Mmh. Oui, donc ces trois axes, c'est recruter, fédérer et innover qui sont présents sur votre site. Est-ce que du coup, vous proposez les scénarios qui sont proposés dans Outils vont être différents en fonction de ces trois contextes d'utilisation ou est-ce qu'on va retrouver les mêmes scénarios?
Alors, finalement, en fait, on appelle ça les scénarios, on appelle ça des recettes. Vous allez avoir un même outil, le même outil, la même mallette, donc qui est facile à mettre en œuvre. Toute l'idée pour nous, hein, parce que parfois c'est nous qui animons l'atelier, comme pour les formateurs, c'est qu'il n'y ait pas de prise de tête sur la mise en œuvre. Tout le jeu, c'est dans l'accompagnement, dans le dialogue avec les participants, dans les enseignements qu'on amène, dans les interactions concrètes. Donc, c'est très simple à mettre en œuvre. Par contre, dans les briques, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et il y a plusieurs recettes qu'on conseille. Suivant ce qu'on veut mettre en lumière, que ça soit la résolution de problèmes, illustrer ce que c'est qu'innover, ou recruter, ou monter une équipe projet. Et ces mises en scène, ces cadres, sont à la fois des mises en scène dans l'espace, une façon d'orchestrer l'espace, d'orchestrer le temps, et de donner différents objectifs, intermédiaires et globaux, légèrement différents. Donc cette scénographie, c'est notre recette, mais la base, les parcours sur les briques sont les mêmes à différents niveaux. Il y a 20 niveaux aujourd'hui, une petite vingtaine de niveaux avec différents niveaux de difficulté. Mais c'est toute la science de la mise en œuvre et de la scénographie qui fera l'expérience, en fait. On n'a pas forcément besoin de créer des énigmes différentes. C'est vraiment la mise en scène qui fait la force. Mmh.
Est-ce que vous pouvez du coup nous en parler un petit peu de cette mise en scène, de la scénographie? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous conseillez aux facilitateurs qui vont utiliser cet outil?
Ouais, ce que disait Arnaud, la mise en scène est quand même très importante. Là, au début, nous, c'est vrai qu'on commence toujours les ateliers par ce qu'on appelle un peu le cliffhanger, c'est-à-dire qu'en fait, on met les participants face directement à la consigne, ils doivent la résoudre tous ensemble, et on sait pertinemment qu'ils ne vont pas y arriver puisqu'ils n'ont pas encore les clés de compréhension. mais c'est pour créer un peu cet effet de « oulala, ça va être compliqué et on pense que… » Et la réussite à la fin est d'autant plus forte, en fait. Ça permet de créer un peu cet ascenseur émotionnel, en fait, avec la remontée à la fin qui dit « ouais, on a réussi ». Donc ça, je pense que c'est important avec vraiment cette mise en situation de toutes les briques qui respirent. Ça crée un peu un environnement, une ambiance qui est quand même assez sympa. Après, nous, on conseille vraiment d'arrêter chaque temps de jeu. En fait, il y a généralement un atelier, c'est 4-5 étapes, en fait, avec des dynamiques de groupe qui sont différentes. On part du groupe complet, qu'on subdivise, et ensuite on revient au groupe complet à la fin de l'exercice. Et l'idée, c'est vraiment de s'arrêter à chaque temps, en fait, pour laisser parler les gens, savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont compris, vraiment, qui verbalisent, en fait, vraiment l'expérience qu'ils viennent de vivre. Et nous, en fait, on en profite aussi pour donner quelques enseignements, en fait, pour donner quelques clés, en fait, de compréhension et de résolution, en fait, sur ce qu'ils viennent de voir, pour qu'ils puissent, enfin, des enseignements qui sont, à notre sens, très utiles après dans leur vie et dans la vie professionnelle, quoi. Donc, on essaie vraiment de les marquer, donc ça, à chaque étape de l'exercice. Et après, l'atelier se termine par toujours une séance de débriefing où là, pareil, on les écoute parler un peu réaction à chaud et on essaye un peu de synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a vu, en fait, les enseignements. Et puis, cette phase de projection un peu dans leur contexte, c'est-à-dire, ah oui, tiens, moi, dans mon équipe projet, ce point qu'on a vu, là, je pense qu'il est super important. Par exemple, l'empathie, se mettre à la place d'eux. Moi, je pense que c'est ultra important pour la poursuite de mon projet. Donc, essayons de le cranter, de le garder pour nous en termes de bonnes pratiques, quoi, par exemple. Enfin, c'est un exemple que je donne, mais...
Ouais, mais en fait, un atelier outil, c'est vraiment un moment, une sorte de rituel d'équipe. Et c'est important de penser à cette façon d'orchestrer le moment, de jouer avec pas les humeurs, mais les variations de rythme, d'enseignement, de pratique, et de créer un peu cette magie. On a fait, pendant qu'on était confinés, on arrivait quand même à faire quelques, dans les périodes d'ouverture, des moments à 6-7, et c'était vraiment magique parce qu'on se retrouvait, on vivait assez doucement une expérience d'apprentissage partagé. Les briques font le feu un peu central, le petit foyer qui réunit, et il ne faut pas négliger, voilà, cette façon d'emmener l'atelier de manière douce, sensible et avec le bon rythme entre la pratique, les enseignements, le moment où on voit que c'est compliqué. C'est ce que disait Arnaud, s'ils ne sentent pas la difficulté, si tout de suite on donne tous les indices, bah, quand on se retrouvera face à une situation de difficulté, on n'aura pas compris comment ça se passait. Donc ouais, il y a vraiment tout ça. C'est une expérience à vivre.
Tu as parlé des clés de compréhension qui sont données dans les débriefs intermédiaires, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ? Qu'est-ce que tu entends par les clés ?
Ouais, des exemples peut-être. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se vivre et se voir au travers d'outils. Et notamment, on a des gens qui ont vécu une première expérience, qui l'ont revécu après et qui ont pris conscience de choses, même en observant d'autres faire. Parce que tout d'un coup, on fait des ponts avec sa vie quotidienne ou professionnelle. Mais pour en donner quelques-uns, il y en a un qu'on aime bien, c'est construire et déconstruire. Il y a quelque chose où quand on a réussi à construire un bout de la solution, on a souvent beaucoup de mal à déconstruire ce qu'on a obtenu pour aller plus loin. Parce qu'on s'accroche au résultat qu'on a, et comme on est dans un environnement nouveau, incertain, c'est très compliqué de déconstruire. Or, il y a des façons de déconstruire pour se rassurer, il y a des façons de créer des repères pour pouvoir déconstruire tranquillement et rajouter la brique qui manquait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on pratique et qui est évidemment transposable dans ce qui va être transformation d'une organisation quelconque ou innovation. C'en est un. On parle, oui.
Moi, je rajouterais peut-être celui un qui nous est cher, c'est le langage commun. C'est-à-dire, en fait, dans la dynamique de l'atelier, on subdivise donc en petits groupes. Chaque petit groupe va résoudre, en fait, à son échelle, une partie du casse-tête et du problème. Et en fait, va verbaliser, en fait, ce qu'il fait. En fait, donc, il y en a qui vont appeler ça des briques, il y en a qui vont appeler ça des cellules, il y en a qui vont appeler ça des faces, des bornes, etc. En fait, et chaque petit groupe va avoir son propre vocabulaire. Et après, quand on réunit, en fait, en plus grand groupe, Rien que cette phase en fait de prendre conscience du fait que le groupe en face de moi en fait n'a pas les mêmes langages que moi en fait, c'est-à-dire que lui il parle de bord, moi je parle de face. C'est des choses simples, mais en fait qui amènent de la compréhension, si de l'incompréhension pardon, si on fait pas l'effort de mettre le vocabulaire à plat, de mettre le langage à plat et de se dire ok, donc on repart sur un référentiel commun, on se met d'accord, on appelle ça des briques, on appelle ça des faces, on appelle ça des bords, etc. Et c'est ce langage commun qu'on met en place qui permettra de gagner énormément de temps par la suite, quoi. Et surtout des incompréhensions ou des erreurs, en fait.
Parce qu'en fait, les briques comme ça ont l'air de rien, mais pour résoudre les énigmes proposées, ça demande un peu d'organisation et un peu de compréhension et de nommer les choses telles que le groupe le veut, mais de pouvoir les nommer. Et la réponse est simple, mais personne n'y arrive facilement. Et en plus, comme chaque groupe va construire un bout, cette phase où on va partager ce langage est hyper importante. Et c'est aussi, on parle aussi de repères partagés, c'est-à-dire qu'on peut dessiner sur les briques ce qu'on va comprendre. Et c'est central dans la résolution des énigmes. Et pareil, chacun va repérer les choses différemment. Et quand les groupes se re-rencontrent pour passer à l'étape d'après, qui est un peu plus compliquée, ou qui valide ou invalide nos hypothèses, pareil, il faut croiser les repères qu'on a posés, prendre le temps de les expliquer, s'assurer que tout le monde les a compris. Donc là, il y a plein de phénomènes observables sur les comportements de groupe, sur les fonctionnements de chacun, sur... Il y a des choses drôles, mais très souvent, les participants n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas compris, parce que c'est compliqué d'assumer qu'on ne comprend pas ce que d'autres ont compris, là, le reste du groupe a compris. Et du coup, tout le monde dit oui, 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 on avance, et on voit que ça bug. Que 10 minutes après, ça bug, ça plante, parce qu'on n'a pas compris la même chose, parce que par la mise en scène, il fallait... Et ça, on le voit, et c'est... C'est un exemple, mais c'est vraiment passionnant dans les discussions, quoi, entre chacun pour construire une solution.
Est-ce que toutes ces clés de compréhension, c'est des choses que vous aviez identifiées en amont en créant le jeu, ou est-ce qu'aujourd'hui vous en découvrez encore de nouvelles à travers vos ateliers ?
Je ne suis pas sûr qu'on les avait découvertes en amont.
Peut-être, mais ouais.
En fait, il y a des choses, il y a une façon de procéder qui nous était chère, c'est autour de la capacité à résoudre un problème nouveau. Et on faisait les choses par notre formation et toute l'expérience qu'on avait acquise d'une certaine façon. Mais je pense que le fait de pouvoir nommer ça, ces clés de résolution, ça s'est fait aussi par la pratique nous-mêmes d'accompagnement et de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on avait mis au point de manière... par notre expérience, par nos centres d'intérêt, notre plaisir à résoudre des casse-têtes. Je pense que l'un et l'autre, on adore ça. On aime bien aussi voir comment une équipe rebondit, comment chacun perçoit un bout du raisonnement ou ce qui est dit par un autre. Je pense qu'on a tous les deux ce regard un peu systémique, quoi. Mais de là à pouvoir nommer précisément les choses, je pense que ça s'est fait avec la pratique, le temps et les retours des gens, c'est-à-dire les professionnels qui utilisent. Non, Arnaud, toi, tu voyais des choses qu'on avait...
Non, c'est ça, on a appris un peu, effectivement, en marchant. Hein, de dire qu'on avait tout défini dès le début, ce serait un peu prétentieux de notre part. Non, on a... Et beaucoup sur les réactions des participants, sur, effectivement, la façon dont eux racontent l'expérience et racontent l'histoire. C'est vrai que parfois, ils utilisent des termes auxquels on n'avait pas pensé, qui, effectivement, étaient totalement pertinents. On a quand même beaucoup appris au travers des ateliers qu'on a menés.
Comment est-ce que vous proposez de faire le transfert entre l'expérience que le groupe a vécue et puis du coup le contexte de l'entreprise ? Comment est-ce que ça se fait, ça ?
Il y a tout un aspect, parce que j'évoquais tout à l'heure des bonnes pratiques collaboratives en fait, qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un projet ou dans tout travail d'équipe, en fait, hein, qu'on va mettre en lumière en fait, dans le cadre de l'atelier outil, l'expérience outil, et qu'on va synthétiser à la fin et qu'on va essayer de projeter justement dans le contexte réel de l'entreprise. Donc ça va être, je parlais tout à l'heure d'empathie, il y a le côté langage commun, par exemple, je démarre un projet, il faut partager un référentiel de vocabulaire, d'acteurs, de gouvernance au début pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Il y a le côté construire, déconstruire, effectivement, qu'on peut aussi... chacun va partir en fait de son côté travailler sur une problématique, mais il faudra ensuite pas hésiter à recasser en fait ce qu'on a fait pour pouvoir construire quelque chose de plus grand. etc. Donc, c'est bon, nous, on appelle ça des bonnes pratiques. On peut appeler ça une charte projet ou je sais pas, mais c'est des petites leçons, en fait, qu'on va essayer d'appliquer dans la vie après de l'entreprise, des participants.
Ouais, l'idée de charte projet est la bonne, c'est de dire à la fin de l'atelier, quand on transpose, on peut rédiger ces bonnes pratiques ou ce cadre qu'il sera bon de se rappeler pendant le projet, soit à mettre en œuvre dès le départ, quels sont nos outils communs, nos repères partagés, notre lexique, et ensuite quels sont les éléments de posture à garder en tête au moment où ça va coincer. Il y a des moments où ça va coincer dans le projet, se rappeler de ce qu'on a pu mettre en œuvre au travers de l'atelier outils, et on peut les nommer. On peut les nommer comme ça, les lister pour que ça soit un peu plus un réflexe au moment où ça bloquera, dans les interactions, dans les discussions, dans les situations, quoi.
Est-ce qu'il peut y avoir des objectifs qui sont énoncés avant de faire un atelier outil et qui doivent être du coup remplis à la fin de l'atelier en se disant bah voilà, moi j'aimerais que mon équipe projet elle puisse découvrir ces telles clés de compréhension pour mieux innover. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un espèce de cahier des charges en amont et que du coup l'atelier doit y répondre ?
Oui, on a le cas en fait. Là, typiquement, bientôt on va faire un atelier qui va s'axer sur la communication, sur une communication et sur un mode, alors, je ne vais pas dire un mode agile parce que tout le monde le dit, mais une gestion de projet qui soit un peu moins militaire, un peu plus flexible. Voyant que les interprétations varient suivant les individus, que le projet ne peut pas se mener d'un bloc selon une ligne écrite dès le départ, parce que c'est un projet innovant et qu'il va y avoir des surprises. Et donc là, on nous demande d'insister sur la communication, la capacité à formuler une méthode et de la voir évoluer au cours d'eux. Donc, en fait, dans ce regard systémique, il y a plein de choses dans la façon d'aborder une situation nouvelle. Et on pourra insister sur un élément ou un autre suivant l'objectif du client, du groupe. Si on est sur plus innovation, on va plutôt insister sur les mécaniques de construction, déconstruction, de multiplicité de schémas possibles, de sélection, de prototypage même. On peut voir l'optimisation et en utilisant les briques et même en sortant un petit peu des briques pour y revenir après pour valider. Donc, c'est là les recettes. Les recettes, c'est une façon de mettre en scène en ayant un objectif pédagogique ou d'enseignement à illustrer spécifique.
Et de manière générale, moi j'ajoutais juste qu'on fait toujours un peu cette démarche quand même avec à chaque demande d'un atelier outil, c'est-à-dire qu'on cadre effectivement en fonction des objectifs suivis, enfin voulus, du client. Et on a cette capacité, comme disait Arnaud, de teinter en fait nos ateliers et nos déroulés en fonction des objectifs poursuivis, quoi.
Mmh. Ok. Alors, l'objectif c'est que l'outil se propage à d'autres facilitateurs ou animateurs de chef de projet, etc. Où en êtes-vous aujourd'hui dans le développement et la commercialisation de votre produit ?
Alors, il y a deux axes, en fait. Donc, soit le premier, c'est on propose des ateliers qu'on anime nous-mêmes, en fait. Donc, Arnaud viennent chez le client, en fait. Donc, on teinte un peu l'atelier, comme je vous le disais tout à l'heure, et on vient l'animer chez le client. Donc, c'est plutôt des interventions ponctuelles. Alors, ça marche très bien dans le cadre de séminaires, par exemple, qui s'étalent sur un ou deux jours. Nous, on vient faire une intervention d'une heure et demie, deux heures pour chauffer un peu les gens et les mettre un peu dans un état d'esprit un peu collaboratif avant de rentrer dans le dur du séminaire, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose. Et après, effectivement, on forme, en fait, une communauté de
praticiens.
De praticiens outils, exactement, ouais. Donc on les forme, ça dure une journée en fait de formation et après ils repartent avec toutes les clés en fait d'outils. Alors sur la façon de craquer les problèmes en fait, d'utiliser l'objet en tant que tel, ça c'est plutôt la matinée et puis l'après-midi on est plus sur toutes les clés plutôt de facilitation en fait, comment on emmène un groupe dans le cadre d'un atelier, comment on le teinte en fait en fonction des différents objectifs et comment on s'assure que en fait ils passent les bons enseignements, les bons messages au bon moment, quoi.
Et il faut savoir qu'avant, là, on est aussi dans une phase où on a produit à échelle, petite échelle industrielle, un certain nombre de briques. C'est une technologie brevetée qu'on a inventée. de toutes pièces, qu'on a mises au point par itérations successives. Et donc ça, ça nous a pris beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre objet fin prêt, testé, approuvé, simplifié. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, parce qu'on a pu produire un certain nombre de mallettes, de pouvoir ouvrir. Parce que quand on avait des demandes de « est-ce que je peux avoir l'objet ?», au début, on était limité à nos propres objets prototypes qu'on gardait précieusement. Et là, on peut enfin, avec la formation, vous repartez avec une mallette de 20 briques, ce qui permet d'animer un groupe de, idéalement, 15 personnes. On peut monter à 20, mais 12-15 personnes, c'est idéal avec 20 briques. Si vous voulez une deuxième mallette, c'est compatible. Et on peut comme ça faire, alors pas tout de suite, mais bientôt, j'espère, des événements à plusieurs avec différentes dynamiques de dispersion, de regroupement. C'est assez, assez bluffant.
Donc, la deux mallettes de 20, on peut s'amuser avec 40 briques assemblées ensemble.
Et nos parcours fonctionnent.
Ouais, et ça monte à 3, 4, 5, 5 mallettes. On peut faire des formats 100 briques, on peut imaginer. Et c'est toujours compatible, en fait. C'est ça un peu aussi la magie du truc. C'est-à-dire, plus le nombre de participants augmente, plus on peut mettre de briques et plus on est sûr de pouvoir faire des formes qui sont immenses.
Et même quand on devient expert de certains niveaux, il y a d'autres jeux qui s'installent. On commence à pouvoir essayer d'optimiser, on commence à pouvoir inventer des choses nouvelles. Il y a plusieurs étapes dans la maîtrise, à mesure qu'on maîtrise. Au début, on découvre situation nouvelle, et après, on essaye de maîtriser, on essaye d'anticiper, on essaye de prévoir, de créer. Et plus on a de briques, plus après, on va aussi jouer à d'autres jeux aussi.
Ouais, super. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé que vous souhaitez rajouter ?
Non, on a dit pas mal de choses. On a tendance à dire pas mal de choses en général. Je crois que...
pour pas qu'il y ait de frustration.
Ouais, je crois que c'est un beau résumé de ce qu'on a mis... quelques temps à développer, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de doutes aussi par moment, parce que voilà, on était sur un territoire nouveau quand on a commencé. On savait pas où on allait arriver. On avait une idée maîtresse qu'on a racontée, mais on savait pas où on allait arriver. Et ça a été toutes les étapes qu'on vit, qu'on fait vivre avec l'atelier. C'est autant d'étapes que nous on a vécues dans la mise au point de cet objet innovant et de cette méthode qui va avec, et des recettes et de la communauté. Donc non, on est heureux d'en être là, de pouvoir ouvrir plus largement, de voir nos premiers formés l'utiliser, créer leurs recettes, expérimenter et se retrouver pour en parler. Donc voilà, une jolie aventure.
Ouais, et puis moi j'ajoutais peut-être que pour vraiment comprendre le potentiel, il faut essayer outils en fait. Il faut vraiment jouer avec ces petites briques parce que c'est un côté très, très ludique, très aimanté, très lumineux. C'est vraiment très sympa et du coup... Faut pas hésiter à nous contacter pour avoir assisté à des démonstrations qu'on organise de manière régulière en visio en ce moment, mais on espère revenir à des démonstrations plutôt physiques très prochainement. Et voilà, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer.
Alors, on en a une dans nos locaux bientôt et on en fera d'autres, mais ouais, c'est à un moment donné, on peut essayer d'expliquer de la meilleure manière, l'expérience se vit.
Tout à fait d'accord. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux.
Merci Mathieu.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.